Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et après l'interview d'Antoine Léaumont, le débat politique continue jusqu'à 19h. 19h où vous retrouverez le journal avec Arthur Mérieux et nous irons justement à Londres rejoindre nos envoyés spéciaux pour ce couronnement de Charles III. Bonsoir Benjamin Morel.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public. Bonsoir Thomas Scarpellini.
Bonsoir.
Vous êtes juriste. On va essayer de ne pas faire un débat de juriste parce que, comme on dit dans notre jargon, on va vider la salle. On va plutôt parler, en l'occurrence, de droit quand même un petit peu et d'ambiance, pas de droit international, mais en tout cas d'ambiance internationale entre Paris et Rome. Avec cet appel à l'apaisement encore ce matin d'Elisabeth Borne. Après, alors on ne sait pas trop si c'est une bourde de Gérald Darmanin qui, chez mes camarades d'RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, a parlé de façon assez expéditive de Giorgia Meloni et de sa politique migratoire. Et ensuite, ce qu'on appelle aussi communément le service après-vente de différents ministres du gouvernement qui ont tenté de minimiser les propos du ministre de l'Intérieur. Comment tout cela peut s'apaiser? Je vais poser la question à l'italien de service qui est sur ce plateau.
Oula, vous en demandez beaucoup. S'apaiser, c'est le destin qui nous le dira, c'est l'aléa. Ce qui est certain, c'est qu'on vit une crise. Les relations entre la France et l'Italie n'ont jamais été aussi tendues. On se souvient des déclarations de plusieurs ministres italiens au moment de la crise des Gilets jaunes. On se souvient des déclarations à l'emporte-pièce en off de certains ministres français avant, pendant et après l'élection de Giorgine de Meloni, qui représentait un petit peu le mal absolu, cette union des droites. En plus, y rajouter le climat avec la Russie. Donc le climat actuellement entre la France et l'Italie est tendu. Et cette bourde de Gérald Darmanin peut avoir de graves conséquences.
Parce que vous dites que c'est une bourde. Vous pensez que c'est une bourde.
C'est évidemment
un dérapage.
C'est évidemment une bourde.
C'est pas sciemment.
Je crois
y a
la maladresse.
Ce scénario aussi,
Peut-être qu'on est dans ce que Mauriac aurait appelé la maladresse des habiles. Peut-être que Gérald Darmanin voulait faire un bon mot et qu'il vient d'être pris à son propre piège. Ce qui est certain, c'est que à la place de l'Italie, la France aurait réagi exactement de la même manière. Il suffit de reprendre comme preuve. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reproche à l'Italie ce que l'Angleterre nous reproche. Avec Calais. Le gouvernement britannique accuse la France de ne pas gérer ses frontières et dès lors, il y a un flux migratoire passant de la France vers le Royaume-Uni. Et que fait Gérald Darmanin? Il reproche à l'Italie de ne pas gérer ses frontières et d'avoir un flot de migrants passant par l'Italie arrivant en France. Donc c'est un petit peu le chat Nelson qui se mord la queue. Et tout cela est au mieux grotesque, au pire aura de graves conséquences sur la scène diplomatique.
Benjamin Morel.
En fait, Gérald Darmanin, je dirais, confond deux choses. D'un côté, la politique intérieure. Et en effet, quand vous tapez sur Meloni, indirectement, vous attaquez le Rassemblement national et vous dites, regardez, la politique que je mène, elle ne serait pas menée de manière plus efficace par Marine Le Pen, parce que, regardez Giorgia Meloni. En soi, en politique interne, ça s'entend. L'argument est plutôt intelligent de la part de Gérald Darmanin, même s'il a quand même un revers. Ça veut dire que si Giorgia Meloni ne peut pas faire grand-chose, ça veut dire que lui-même est quelque peu pieds et poings liés. Et là, on peut parler du droit européen. Néanmoins, évidemment, le problème, c'est que l'Italie, ce n'est pas la France, et que donc, il y a des relations diplomatiques derrière. Et l'Italie, aujourd'hui, est un partenaire qui est essentiel. Et je rejoins ce qui a été dit. Il faut voir qu'il y a quelques années, on a signé le traité du Quirinal. Quel était l'objectif?
Rééquilibrer l'Europe. Le palais présidentiel à Rome.
Exactement. C'était de trouver une forme d'alternative au couple franco-allemand en disant on a des intérêts quelque peu divergents en matière énergétique et économique avec l'Allemagne, tentons de trouver d'autres partenaires. Et ce traité du Quirinal, il avait un vrai sens parce qu'en réalité, on a aujourd'hui des vrais intérêts communs avec l'Italie. Donc pour ne pas être trop pessimiste, je dirais que souvent les États ont les principes de leurs intérêts. Et qu'à terme, malgré les difficultés qu'on peut avoir avec Giorgia Meloni, quel que soit celui qui sera à la tête de l'Italie, nous arriverons à nous entendre parce que nos intérêts convergent. Mais à court terme, c'est quand même se tirer de belles balles dans le pied, alors qu'à Bruxelles, on discute justement taxonomie en matière énergétique et qu'on aurait bien besoin justement de tendre la main à Rome.
Ce qui est assez étonnant dans ces relations franco-italiennes, c'est que depuis l'accession à la présidence du Conseil de Giorgia Meloni, il se dit qu'entre Paris et Rome, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de dialogue, tout simplement parce qu'on considère que c'est l'extrême droite et qu'on ne peut pas parler. Enfin, c'est quand même très très difficile, c'est les informations que le service politique d'Europe 1 nous a rapportées. C'est quand même assez dément, j'allais dire, cette posture, alors que c'est un partenaire politique certainement, économique beaucoup plus certainement encore,
et européen. Et qu'elle est beaucoup plus contrôlable que Salvini.
Voilà.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, Thomas évidemment, Carpellini. Comme on l'a rappelé, la France et l'Italie ont des liens économiques extrêmement forts. On peut citer le projet de la ligne de chemin de fer Lyon-Turin, c'est quand même un projet à plusieurs dizaines de milliards d'euros, un projet fédérateur d'union entre les peuples, un beau projet européen. Et tout ceci vient un petit peu mettre des doigts dans l'engrenage au risque d'enrayer la machine. Mais on pourrait même s'extraire de la problématique italienne et poser la question de la diplomatie au point de vue de la Macronie. Car qu'est-ce qu'on remarque avec cette Macronie ? C'est ce qu'elle nous propose, c'est d'être Astérix, mais sans la potion magique. D'être un village isolé du reste du monde.
Belle image.
Mais assez parlante. Car à l'époque, on avait des potions magiques, pour reprendre l'expression. L'arme nucléaire, le soft power, une puissance culturelle.
Enfin, l'arme nucléaire, on l'a encore.
On l'a encore. Certes, et on est encore le seul pays avec le Royaume-Uni à l'avoir sur le sol européen.
On a la dissuasion, on a des sous-marins qui sont très très bien équipés par l'arme nucléaire, et c'est une spécificité française.
On est d'accord, sauf que la problématique, c'est que tous les autres villages européens se sont dotés d'autres armes nucléaires. L'Allemagne a sa balance commerciale. Le Royaume-Uni a son pacte économique particulièrement véloce avec les États-Unis et l'ancien Commonwealth. L'Espagne a signé récemment au moins 2 traités avec le Mercosur pour doper justement leur commerce extérieur. Et dès lors, Emmanuel Macron semble isolé. Emmanuel Macron, la Macronie au sens large, la France est avoir la volonté d'une diplomatie sans se donner pour autant les moyens de la mettre en œuvre. Car aujourd'hui, s'il y a un bras de fer avec l'Italie, on a quoi comme moyen d'action ? On ne va pas raser Rome de la surface de la Terre. Nos IDE entre Rome et Paris sont à peu près les mêmes.
Ça ne va jamais aller jusque-là. Hein.
Ça n'ira jamais jusque-là.
C'est pas le sujet.
Mais ce que je veux dire, c'est que si on voulait... Non mais justement, c'est que si on veut sanctionner l'Italie, on a quoi comme levier ? Nos IDE sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a autant de fonds italiens qui viennent en France que de fonds français qui vont en Italie. Il y a des pactes commerciaux. La France n'a pas la capacité, la densité, la surface économique pour gagner un bras de fer avec un pays comme l'Italie. Et... on pourrait même rajouter avec un pays comme l'Espagne, ou avec l'Allemagne, ou avec le Royaume-Uni. Donc oui, je maintiens cette expression. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, la Macronie nous propose d'être Astérix, mais sans la potion magique.
Ouais, en attendant, on a une politique migratoire et une crise migratoire qui est importante. On le disait encore ce matin dans les grandes voix d'Europe 1, il y a une démographie africaine et qui est de 115%. Et pour certains pays, on est vraiment dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes encore aujourd'hui. Donc évidemment... la France, l'Italie, l'Europe d'une manière générale, en tout cas l'Europe du Sud, est un Eldorado. Il y a 23 millions d'Africains qui sont en situation de famine, tout simplement. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans les ports libyens pour prendre des bateaux totalement aléatoires pour venir jusqu'à... arrive, tout ça arrive effectivement en Italie. Et ensuite, il y a un dispatch, comme on le dit, dans les pays d'Europe. Mais du coup, l'Italie reste... le point central, le point d'achoppement de toutes ces populations.
Et on peut s'indigner de l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, peut-être, mais la réalité, c'est que si jamais l'Europe n'avait pas laissé tomber l'Italie, et ben peut-être qu'en effet, Frères d'Italie ne serait pas aujourd'hui au pouvoir et n'aurait pas doublé tous ses partenaires, y compris au sein de la droite italienne. Donc là, il y a malgré tout une responsabilité directe des autres pays européens, y compris d'ailleurs de l'Allemagne, qui en 2015 dit « Regardez, venez, il n'y a pas de problème », sans consulter aucun de ses partenaires. Donc là, il y a un manque de solidarité européenne. Et par rapport à ça, il y a deux éléments. Par rapport notamment aux chiffres que vous donniez, on s'en sortira pas sans faire du co-développement. Je crois que l'idée de « on va construire des murs et on va renforcer les frontières », il faut attention, mais ne sera jamais suffisant. Quand vous avez des millions et des millions de gens qui ont faim et qui frappent à la porte, ce n'est pas un mur et des clôtures qui vont les arrêter. Donc si jamais on ne développe pas l'Afrique, si on n'aide pas l'Afrique à se développer demain, eh bien on va perdre à la fois des marchés, ouais, parce qu'évidemment il y a des choses à faire, mais on va également perdre sur ce terrain-là.
Surtout que vous avez la Chine, qui pose son joug en investissant des centaines de milliards de dollars.
Ce qui explique d'ailleurs beaucoup, en partie, les problèmes d'immigration qu'on peut avoir, parce que du coup, lorsqu'on parle de laissez-passer consulaire, etc., aujourd'hui, on n'est plus forcément dans un rapport de force favorable parce que les Chinois disent « il n'y a pas de problème, nous on remplace et on n'a pas ce type de problème ni de desiderata ». Donc là, il y a un vrai sujet. Ensuite, au niveau européen, soit on a une vraie politique d'immigration au niveau européen, ce qui implique de repenser Frontex, ce qui implique de repenser les accords de Dublin, ce qui implique d'avoir un vrai repositionnement de tous les États européens, soit il faut la jouer à la danoise. C'est-à-dire, il faut rentrer dans une logique d'opting out.
Alors, on va s'arrêter là-dessus. Ouais. Le Danemark, pardonnez-moi, mais pardonnez-moi ma question candide, c'est il fait comment ? En fait, il fait comment pour dire, en fait, oui, il devrait y avoir j'allais dire un consensus européen sur la politique migratoire, mais moi je dis non.
Il est hors des traités. C'est-à-dire que les Danois se sont dit, eh bien, les traités européens sur notamment l'asile, nous les refusons, et donc nous avons une clause particulière, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un opting out. Et donc ces systèmes-là qui vous permettent d'être en retrait d'un traité, les Anglais en avaient beaucoup, hein, souvenez-vous, le chèque britannique, etc. C'est cette logique-là vous permet justement de ne pas mener certaines politiques. Le problème, c'est que c'est facile quand le traité est négocié. Vous dites, bah, moi j'y vais pas. Par contre, une fois que vous avez ratifié le traité, sortir devient plus compliqué. Et là, il faut rentrer dans un bras de fer. Il faut dire, bah, écoutez, sur telle et telle politique, c'est soit nous partons, soit nous restons. Mais si nous restons, nous voulons avoir une conception particulière. C'est ce qu'ont fait les Danois, c'est ce que faisait Cameron avant le Brexit. Et c'est ce qui pourrait éventuellement marcher. Parce qu'aujourd'hui, sinon, et on rejoint ce que disait Darmanin sur Meloni, on peut avoir toutes les politiques musclées, dire ce que l'on veut sur l'immigration. La réalité, c'est qu'entre la CEDH et la CJUE, vous n'avez plus de marge de manœuvre réelle en termes migratoires.
La Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice européenne. Thomas Scarpellini.
Et également, pour un petit peu persévérer dans l'analyse de Benjamin, il faut bien comprendre le lien qu'entretient l'Italie avec l'Union européenne. Il faut se souvenir que finalement, le Covid a sauvé l'intégrité européenne pour une raison très particulière. Souvenez-vous, Salvini arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir sur une politique économique keynésienne, de dépenses publiques. Également, s'appuyant sur une deuxième jambe, un strict respect et des frontières face à aux migrants. Mais le budget qu'il avait proposé au peuple italien, sur lequel il a été élu, qui a été voté au Parlement, ne respectait absolument pas la règle des 3% de déficit budgétaire. On est en 2019, quelques mois avant que la Commission européenne, qui a également cette mission de contrôle du budget pour le respect des dits traités européens, aurait pu sanctionner l'Italie s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. C'est-à-dire qu'un gouvernement légitimement élu sur une politique sociale annoncée, sur une politique économique annoncée, aurait pu se prendre, dans le meilleur des cas, une amende de la Commission européenne, ou pire, les traités sont assez vagues sur la question, mais davantage de sanctions. Donc il y a déjà ce lien un petit peu rompu entre l'Italie et l'Union européenne. On rajoute également qu'il suffit de lire la presse quotidienne régionale italienne pour voir le sentiment qu'ont les Italiens de la, entre guillemets, de la solidarité des pays frontaliers pendant la crise du Covid. L'Italie n'a pas vu d'hôpitaux allemands, français ou transfrontaliers accueillir à bras ouverts leurs malades. Et dès lors, la solidarité européenne, à tort ou à raison, est considérée comme un petit peu rompue par la part des Italiens. Et pourquoi est-ce que tout ceci est très intéressant? Car Meloni sert de laboratoire politique. Pourquoi? Elle arrive au pouvoir après Matteo Renzi, qui est un petit peu l'Emmanuel Macron italien. Un homme du centre-droit, centre-gauche, aimant les coalitions. Et elle arrive à faire une contre-coalition des droites, ce qui est, après tout, probable en France. On sait que c'est le projet politique de certains de nos dirigeants, comme de certains de nos candidats, comme Éric Zemmour. On sait également que Giorgia Meloni a un rapport particulier avec l'Europe, comme Marine Le Pen peut l'avoir. Et dès lors, suivre le comportement de Giorgia Meloni, et comme l'a très bien rappelé Benjamin Morel, le critiquer pour se donner des sensations, pour se trapper dans un linceul, je fais barrage à Meloni pour faire barrage à Marine Le Pen, tout ceci va être extrêmement intéressant à suivre. Car le gagnant de ce bras de fer pourra donner un éclairage sur ce qui pourrait se passer en France dans quelques années.
Je reviens juste sur Gérald Darmanin, sur les différentes hypothèses. On a dit que c'était une bourde, on a dit que c'était peut-être un dérapage. On dit aussi que Madame Borne n'est pas forcément pérenne à Matignon et qu'il y a plusieurs ténors du gouvernement qui se préparent à prendre sa place. Est-ce que ça n'est pas, d'une certaine manière, tracer sa route, même si, dans ce cas-là, si cette hypothèse est retenue, il l'aurait fait un peu maladroitement, Benjamin Morel.
Il n'a pas échappé que Gérald Darmanin avait une stratégie un peu sarkozyste de communication. C'est-à-dire qu'il s'agit d'exister, même si exister n'est pas forcément à votre avantage. Donc, il y a eu la loi immigration. La loi immigration a disparu, donc il y a eu Mayotte. Et maintenant que Mayotte, eh ben, on en parle un peu moins, même si ça continue, eh ben, il faut trouver un nouvel élément. Et là, en effet, c'en est un nouveau. Gérald Darmanin a une actualité ou deux actualités par semaine. Ça rappelle beaucoup Nicolas Sarkozy. Pas sûr, malgré tout, que ça l'envoie à Matignon. Pour une raison simple, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la figure Gérald Darmanin permette de conquérir une majorité à l'Assemblée. Arriver à structurer les Républicains derrière lui n'est pas évident. Et je vous laisse imaginer l'attitude de Sacha Houillet, président de la Commission des lois, le jour où on lui expliquera que c'est Gérald Darmanin qui est Premier ministre. Donc, toute l'aile gauche de la Macronie risque de prendre ça, y compris le Modem d'ailleurs, de manière limitée.
Est-ce que c'est encore grave, docteur? Je comprends, j'aurais entendu votre argument il y a un an et demi, deux ans, mais est-ce que
C'est grave parce qu'en réalité, si vous voulez quand même faire passer un minimum de projets de loi, il faut un Premier ministre un minimum consensuel. Sinon, vous risquez d'avoir des motions de censure qui se succèdent et d'avoir des déperditions au fur et à mesure. Donc le profil Darmanin m'apparaît compliqué en vue de Matignon, mais en vue d'une répartition d'un Yalta de la Macronie et d'une conquête de l'électorat de droite en vue de 2027, là, la stratégie de communication n'est peut-être pas tout à fait idiote. Donc, il y a peut-être une volonté de sa part de sauter une marche. Et pour répondre rapidement sur stratégie, pas stratégie, reprenez le discours de Quimper d'Emmanuel Macron en 2019. Salvini est au pouvoir en Italie, enfin, il est ministre de l'Intérieur, mais la Liga tient quand même en grande partie le gouvernement. Et il parle à l'époque de lèpre populiste qui monte et il vise directement Rome. C'est une stratégie de l'exécutif français depuis longtemps. Et cette stratégie-là, du point de vue diplomatique, elle est délétère.
En tout cas, puisqu'on parle de Matignon, il y a eu... alors, comment est-ce qu'on peut analyser ça tout à l'heure? Une confirmation de la CGT, comme quoi elle irait effectivement au rendez-vous proposé par Elisabeth Borne le 16 ou le 17 mai. Est-ce que... Et je posais cette question tout à l'heure à Antoine Léaumont de la LFI, qui, non pas en riait doucement, mais presque, bon voilà, est-ce que c'est un scénario... identique à la première réunion qui avait finalement pas duré très longtemps et tout le monde était parti, et puis on se souvient très bien de ces déclarations sur le perron de Matignon en disant ben voilà, on n'est pas d'accord donc on repart et puis la mobilisation continue, ou est-ce qu'on rentre dans une, je ne veux pas dire le mot inertie, mais est-ce qu'on en parle dans quelque chose qui est en train de s'endormir tout doucement, où effectivement les syndicats vont plus calmement dialoguer avec le gouvernement?
Moi, ça me donne le sentiment d'être un petit peu face à une chorale des mots creux. En effet, Elisabeth Borne est remplie de bons sentiments, la CGT est remplie de bons sentiments. On m'invite, je viens. Mais si c'est pour rester 5 minutes, parce que la question de la réforme des retraites ne sera pas abordée ou sera écartée, à quoi cela va servir? Ce qui est certain, c'est que cette question est à mettre en écho avec la question sur Gérald Darmanin. Tout le monde joue sa carte, avec un calendrier qui lui est propre. Et Elisabeth Borne, son calendrier immédiat, c'est sauver sa tête. La CGT, en revanche, c'est... continuer le mouvement social pour revenir à plus ou moins, avec plus ou moins de réussite, sauf ce projet des réformes des retraites. Mais ce qui va être intéressant de voir, ça va être prendre de la distance et voir comment formuler ça, de voir les réactions de toute la Macronie. Car si oui, en effet, le siège d'Elisabeth Borne est sur un siège éjectable, celui d'Emmanuel Macron aussi, il ne pourra plus être candidat. Dès lors, le monde des possibles est ouvert, excusez-moi pour la bafouille. Et dès lors, évidemment, tous les ministres, tout le personnel politique, tous les ténors ont tout intérêt à jouer une carte, fussent-elles dissidentes à celle des autres. Vous savez, quand les lions est mort, le chacal se partage l'empire, on ne pourra pas en demander plus à la Macronie qu'au fils de Charlemagne.
Benjamin Morel.
Je crois que les syndicats ont aujourd'hui une nouvelle date butoir, c'est-à-dire qu'on a longtemps parlé du 1er mai, ensuite il y avait le 3 mai avec le fameux RIP, et maintenant il y a quand même le 8 juin.
Oui, avec le deuxième, voilà.
Alors avec la proposition de loi, Liotte, etc. Alors elle n'est pas encore passée, je ne vais pas encore jouer mon juriste, mais il va falloir que ce soit jugé comme étant recevable, etc. Mais néanmoins, si c'est jugé comme étant recevable, si de l'autre côté, la majorité ne fait pas trop d'obstruction et que c'est voté et que le vote est positif, ce qui est loin d'être impossible, à ce moment-là, ben, même si ça ne fera pas passer la proposition de loi, le texte ne sera pas abrogé à travers cette proposition de loi, malgré tout, ça envoie un coup politique profond. Et donc les syndicats, jusqu'à ce moment-là, ont quand même intérêt à tenir une posture d'opposition qui est une posture d'opposition ferme. Parce qu'en réalité, avant les 100 jours, au vu de la faiblesse du gouvernement, de toute façon, toute négociation est un peu vaine. Admettons qu'ils se mettent d'accord sur le travail. Merveilleux. Quelle majorité, désolé d'en revenir encore une fois aux affaires parlementaires, quelle majorité pour voter le texte qui est accordé? Vous pouvez toujours serrer la main aux deux syndicats majoritaires, vous pouvez toujours discuter avec la CFDT, la CGT et trouver un accord. Si in fine vous envoyez un truc dans la machine parlementaire et que ça ressort totalement défiguré parce qu'il faudra passer sous les fourches caudines et de Bruno Retailleau et du groupe LR à l'Assemblée, évidemment, c'est pas possible. Et donc, les syndicats ont intérêt à montrer qu'ils jouent le jeu parce qu'ils ne sont pas tout à fait enfermés dans leur tour d'ivoire. Le gouvernement a intérêt à montrer qu'il consulte. Tout le monde sait très bien que tout ça ne mènera pas grand-chose.
Ouais. En attendant, il y a cette date avant le 8 juin de nouvelle mobilisation. À quoi? Alors, personne n'a de boule de cristal autour de cette table, mais quand on a vu ce qui s'est passé le 1er mai, ça a fait quand même froid dans le dos. On a vu que les Black Blocs s'étaient maintenant organisés de façon vraiment totalement militaire, hein, avec une façon d'avancer, une façon de reculer dans les cortèges, une façon d'affronter les forces de l'ordre, avec un appui, médical derrière, comme à l'armée, hein, comme dans une bataille de tranchées, avec des médecins derrière qui suivent en appui, avec des caches dans lesquelles on pose des armes artisanales. Enfin, c'est assez effrayant quand même pour un mois de juin en plus. Enfin, je veux pas non plus rentrer dans le dans le printemps, mais dans le penser printemps, mais comme dirait l'autre. Mais bon, quand même, c'est pas ce qu'on avait prévu tous en sortie de Covid et en plus ou moins accalmie de l'inflation.
Vous allez peut-être m'accuser d'être monomaniaque, mais moi, ça me fait encore penser à l'Italie, aux années de plomb.
Non, mais c'est parce que vous vous appelez Scarpellini.
Exactement, je prêche
que
ma
paroisse. Vous n'arrivez pas à vous faire un double français, voilà.
Ça doit être pour ça, mais pour reparler sérieusement, ça me fait penser aux années de plomb. 1960-1970, l'Italie, une extrême gauche mobilisée dans la rue qui se transforme en extrême gauche, qui se transforme en ultra-gauche.
En mouvement terroriste.
Et qui se transforme en un mouvement terroriste avec l'assassinat du patron du MEDEF italien, en l'acte avec l'assassinat du président du Parti démocrate chrétien italien. Donc la violence.
Avec les enlèvements, les kidnappings.
Exactement. Et il n'est pas improbable que ces mouvements blabla, comme vous l'avez très bien rappelé, avec leur organisation, leur volonté, leur arsenal, car ils sont armés, cela peut dégénérer. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les 100 jours d'apaisement proposés par Emmanuel Macron, c'était la fusée SpaceX. C'est bien parti, ça a explosé au bout de 5 minutes. Et on en paye aujourd'hui les pots cassés, car personne n'a envie de mettre
ça,
de l'eau dans son
vin. On s'est tous demandé qui avait fait le narratif des 100 jours.
Hein. Surtout qu'en plus...
Benjamin Morel. Hein.
Ça, je ne sais pas, mais en effet, c'est pas
parce que
extrêmement
c'était
habile.
C'était pas forcément le plus adapté.
D'autant plus que les 100 jours, historiquement, c'est Napoléon et ça se termine par Waterloo.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on le dit. C'est assez étonnant. Comment est-ce que vous voyez les choses, Benjamin Morel, à l'approche justement ce 6 juin ? À quoi ressemblera-t-il ? Est-ce que c'est une contestation fructueuse ?
C'est plutôt malin de la part des syndicats parce que ça permet de mettre la pression sur les députés, notamment sur les députés LR ou ceux qui pourraient hésiter. Et ça peut induire, parce qu'en fait, on n'est pas sur une motion de censure. Donc vous savez, pour les motions de censure, ne comptent que ceux qui votent la motion de censure. Là, les abstentions, les députés, l'AREM ou LR qui auront aquaponé ce jour-là et qui ne pourront pas être à l'Assemblée parce qu'ils préfèrent justement faire de l'aquaponé plutôt que de devoir dire j'ai voté.
Direz, parce que j'ai l'impression que vous êtes un adepte.
On ira prendre des cours ensemble, avec grand plaisir. Ce sera une première pour moi aussi. Et donc là, il y a en effet un moyen de pression qui peut être utile, entre guillemets, politiquement, qui est plutôt intelligent. Encore faut-il arriver à mobiliser. Le problème, évidemment, c'est que c'est loin. Le 6 juin. Et donc, arriver à entretenir un mouvement lorsque, justement, vous ne réactivez pas un peu vos réseaux, c'est toujours un peu compliqué, donc c'est hasardeux. Mais pourquoi pas, on verra. Sur les Black Blocs, je dis rarement que modifier les lois est utile, parce que la plupart du temps, on ne fait que changer 3 virgules. Mais la loi anti-casseurs telle qu'elle est envisagée, notamment la possibilité d'incrimination collective, là peut être un outil. Parce qu'aujourd'hui...
Ouais. Ça remonte à Pasqua quand même.
Ça remonte à Pasqua. Ouais. Mais le problème que l'on a aujourd'hui, c'est pas d'arrêter les gens. Le problème, c'est d'arriver à prouver qu'ils ont fait quelque chose, quand même ils soient habillés en noir. Le fait d'avoir une incrimination collective permet quand même d'aller un petit peu plus loin, et si ce n'est de régler le problème, en tout cas d'avoir enfin des armes efficaces pour commencer à le régler.
Est-ce qu'on peut régler les choses avec une loi, Thomas Scarpellini ?
Ça, c'est l'éternel débat. Vous avez demandé que ce ne soit pas un débat entre juristes. Sur la question des Black Blocs, il y a deux sondages moi, qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier, je ne sais pas si vous avez souvenir, début de semaine, 86% des Français sont pour un durcissement des sanctions contre les Black Blocs. Oui, mais ligne suivante, on apprend que chez les 18-25 ans, ce nombre tombe à 50%. Première donnée extrêmement intéressante. Au deuxième sondage, si les Français sont toujours majoritaires à sanctionner, à condamner les violences, ils deviennent minoritaires, ceux qui ne comprennent pas leur cause. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix mezza voce qui dit que ce gouvernement l'a bien cherché. Que ce gouvernement, après tout, a tout mis en place pour avoir des violences. Nous condamnons les violences, mais nous les comprenons. Et tout ça crée un climat politique, un climat social, presque sociétal, extrêmement...
On en revient à Léo Mans qui, pas plus tard qu'au début de la semaine dans l'hémicycle, disait « si tout ça arrive, c'est vous, c'est à cause de vous, à l'exécutif, il disait ça. »
Mais la violence aujourd'hui, on a une enquête qui est parue la semaine dernière qui montrait que 30%, c'était déjà le cas au moment des Gilets jaunes, trouvaient que la violence était un moyen d'action légitime. Deux semaines auparavant, ils n'étaient que 15%. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a en effet le sentiment que comme le mouvement social, malgré le fait qu'il arrive à mobiliser 1 400 000 personnes dans la rue à son apogée, eh bien, n'est pas utile, la violence peut être un outil. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que à chaque fois qu'on a cédé à la violence ces dernières années, Notre-Dame-des-Landes, Yvan Colonna, les Gilets jaunes, eh bien, on a fait le lit de ça. Et que de l'autre côté, en ne voulant pas négocier avec les mouvements sociaux, eh bien, on a donné le sentiment à une partie de nos concitoyens que la violence était la seule voie utile d'accès et de succès. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. 30% c'est minoritaire, mais 30% qui jugent que la violence est légitime, c'est en fait extrêmement inquiétant en démocratie.
Bah oui, en démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que justement, ce dont rêve Jean-Luc Mélenchon, la fin de la Ve République et le début d'une Sixième République.
Bah, on peut vouloir la fin de la Ve République, mais vouloir la fin de la Ve République, la République n'est pas parfaite, ça ne veut pas forcément dire la violence. En revanche, considérer que la violence est une voie d'action légitime, c'est la mort de la politique, parce que la politique, c'est la gestion pacifique justement des différends, et pas la gestion à coups de pavé.
Merci beaucoup Benjamin Morel, merci à vous Thomas Carpellini d'avoir été les invités de Ça fait débat.